7 milliards de voisins et voisines, cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, faut-il accepter le tout jetable ou l'obsolescence programmée? Regardez autour de vous tout simplement des smartphones qui rament au bout de 3 ou 4 ans à cause du logiciel, des ordinateurs dont la durée de vie est deux fois moins longue qu'il y a 20 ans. Est-ce normal? Pour les voitures, c'est la même chose. Plus aucun fabricant ne communique sur la longévité d'un véhicule. Logique, il est bourré d'électronique, de pièces en plastique. Alors faut-il pénaliser les entreprises qui les produisent, avec notamment des lois dans certains pays comme la France, ou plus simplement rechercher nous-mêmes les produits les plus durables? Sommes-nous vraiment conscients du gaspillage financier et environnemental avec des déchets qui s'amoncellent? Nous allons en discuter avec ceux qui s'interrogent et qui proposent des solutions surtout. Bonjour Laetitia Vasseur.
Bonjour.
Vous êtes fondatrice et déléguée générale de l'association Halte à l'obsolescence programmée, et surtout vous publiez, je dois dire, un petit guide qui est très bien fait, très simple, qui s'appelle du jetable au durable. Alexandre Morin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un des fondateurs de M Carré.
Tout à fait.
Une start-up qui remet à neuf des ordinateurs et double leur durée de vie.
Exactement.
Comment se fait-il que vous ne soyez pas plus connu, que tout le monde ne se presse pas aux portes ou sur le site de votre start-up?
Eh bien, pas encore, effectivement, mais notre communauté grandit jour après jour. Nous existons depuis un an, donc ça explique aussi que nous soyons... Ben, nous avons à peu près 1 millier de personnes qui nous suivent. Comme je vous disais, ça grandit parce que les gens se rendent compte que c'est possible. Enfin, il y a pas mal de barrières aussi à modifier, parce que beaucoup de gens croient encore qu'on doit jeter l'ordinateur au bout de 3 ans.
Vous avez un smartphone sur... Vous avez posé sur la table du studio.
Tout à fait, oui.
Vous l'avez bidouillé?
Eh bien oui, toujours. Hein,
tout ce que vous achetez, vous le bidouillez. Tout.
Smartphone, tablette, ordinateur.
Pour rallonger portable. La durée de vie.
Exactement, pour les optimiser, pour optimiser la batterie. Parce que pour les smartphones, il faut savoir qu'une batterie dure environ un an et demi. Si on ne fait rien, avec M Carré, on arrive à gagner 30-40% ce qu'on a développé. Oui, il faut le faire dès
la fin. Vous allez nous livrer quelques trucs, vous êtes ingénieur de formation?
Exactement.
Ouais. Allez, vous me disiez pendant le journal, mais nous on peut tout savoir sur un produit, il suffit d'aller voir la fiche constructeur.
Exactement. Ouais,
évidemment, tout le monde n'a pas fait vos études, mais on pourrait être beaucoup plus efficace nous-mêmes en tant que consommateurs.
Oui, il y a des choses qui ne trompent pas, il faut savoir à peu près regarder. Il y a des indicateurs sur la durabilité, il y a des indicateurs sur les performances qui ne sont pas forcément les bons. Il y a une chose par exemple que le marketing a créé, c'est l'Intel Inside. Je pense qu'on voit tous de quoi je parle. C'est ces processeurs i3, i5, i7. Alors nos clients disent « Ah, je veux un i5 pour 500 €. » Mais je peux vous assurer que je peux vous faire des ordinateurs sans processeur Intel qui soient plus performants que ce fameux Intel Inside.
Bon, alors on va essayer de ne pas être trop technique non plus. Hein. On sera en ligne aussi avec Anne-Sophie Novel, journaliste et économiste, spécialiste du développement durable. Et puis on accueillera également au téléphone Régis Gautreau. Alors lui, il est fondateur designer de la marque Berthe au grand pied. Ce sont des chaussettes et des collants, paraît-il, presque inusables. Et quant à vous, les voisins, êtes-vous fatalistes ou énervés? Que faites-vous pour lutter contre l'obsolescence? Je vous lis justement quelques témoignages. Brice à Yaoundé au Cameroun: quand mes chaussures s'usent, je les reprends moi-même à l'aide d'une aiguille et d'un fil. En fait, la pacotille m'a permis d'apprendre la cordonnerie sur le tas. Oui, vu comme ça, effectivement, pour un ordinateur, c'est un peu plus compliqué. Jafet est au Katanga, en République démocratique du Congo. Il nous dit ceci: ce que ces industries font est vraiment scandaleux. Elles devraient être poursuivies en justice. En République démocratique du Congo, un téléphone fabriqué en Chine a généralement une durée de vie de 5 mois maximum. Vous êtes alors obligé d'en acheter un autre. Il est irréparable. Voilà, j'en ai un petit téléphone de base que j'ai apporté dans le studio, dans lequel on met une puce locale quand on va en Afrique. Il a duré 3 semaines et il est cassé. Voilà, Pierre à Lubumbashi: moi, la réparation de mon téléphone me coûte presque autant qu'un téléphone neuf. Je préfère donc m'en acheter un nouveau. C'est de là que vient aussi le problème. C'est vrai, non?
Oui, c'est vrai, le problème du coup, la réparation, c'est un vrai enjeu parce que la réparation, c'est une solution, mais faut-il encore qu'elle soit accessible? Donc là, on voit parfois des associations de réparateurs qui offrent ces services comme les Repair Café en France ou en Europe, qui sont intéressants. Après, il y a aussi des savoirs populaires, surtout dans les pays ou dans les campagnes, ou enfin un peu partout en fait. Il y a beaucoup de gens qui savent réparer ou qui savaient réparer. L'important maintenant, c'est de garder des produits qui soient réparables pour que justement les gens qui savent faire puissent encore le faire.
Et donc avec des pièces de rechange, bien sûr, on en parlera. Appelez-nous, on parle de l'obsolescence de tous ces produits du quotidien qui nous entourent. 33 1 84 22 71 71. Laetitia Vasseur, Alexandre Morin. Déjà, je voudrais que vous nous expliquiez exactement ce que signifie l'expression obsolescence programmée, Laetitia Vasseur.
Alors, l'obsolescence programmée, ça représente cette volonté de réduire la durée de vie des produits pour alimenter un système de surconsommation, c'est-à-dire toujours en racheter. Donc ça, il y a eu une obsolescence qui est à la fois technique. Donc ça, par exemple, ça va être, vous ne pouvez pas enlever la batterie de votre ordinateur, concrètement, des choses comme ça. Après, il y a l'obsolescence logicielle, qui là, c'est la machine va marcher en tant que telle, mais c'est le logiciel à l'intérieur qui va rendre l'outil inutilisable. Et puis l'obsolescence psychologique, qui représente des effets de mode qui sont plus ou moins un peu poussés au maximum. Et l'obsolescence programmée aujourd'hui a une définition juridique. Nous, personnellement, on a une vision plus large que la définition juridique, mais bon, elle est quand même très utile. Aujourd'hui,
juridique, ça veut dire qui permet des poursuites pour
voilà,
le fabricant.
C'est un délit, ouais, concrètement. Depuis la loi de transition énergétique de 2015, c'est un délit
en France.
En France.
Comment est-ce qu'on est passé finalement d'un monde où la publicité, les commerçants nous disaient il y a 30 ans, 40 ans, achetez mon produit parce que c'est le plus solide, à un monde où on nous dit achetez mon produit parce que c'est le moins cher ou parce que c'est le plus à la mode?
C'est vraiment une société de consommation qu'on analyse dans notre ouvrage, du jetable au durable, c'est-à-dire tout un système qui est organisé pour acheter le plus souvent et considérer nos produits de plus en plus comme jetables, des choses qui avant étaient considérées comme des produits durables. Maintenant, un téléphone portable, presque, ça devient quelque chose de jetable. Et ça, c'est vraiment une société tout simplement de surconsommation. C'est un système économique. L'idée, c'est de vendre plus pour acheter plus et avoir une croissance
économique. Est-ce qu'il y a vraiment des produits qui sont conçus pour avoir une durée de vie limitée alors qu'ils pourraient être conçus pour durer plus longtemps avec le même coût? Est-ce qu'il y a réellement cette obsolescence programmée?
Moi, je pense que oui, en effet. Alors, ça dépend aussi de ce qu'on entend par obsolescence programmée. L'obsolescence technique, on en a vu des cas assez marginaux, mais flagrants. Par exemple, les imprimantes, des choses comme ça. Là, on peut vraiment se demander si on n'a pas fait exprès de limiter la durée de vie.
Qui sont programmées pour imprimer, ou une machine à laver qui est programmée pour faire tant de lavage et pas plus.
Voilà,
c'est ça. Mais ce sont des cas marginaux ou pas? Ultra marginaux?
C'est des cas
délibérée, en fait, pour réduire la durée de vie?
C'est des cas relativement marginaux, mais après, l'obsolescence programmée, elle est réelle et tout le monde a une histoire à raconter sur un appareil qui est devenu obsolète trop rapidement. Il y a une vraie frustration autour de l'obsolescence programmée.
Ça ne veut pas dire qu'elle est délibérée de la part du fabricant. C'est pas la même chose.
Le fabricant ne conçoit pas des produits pour qu'ils soient durables. Ça, c'est une évidence.
D'accord. Mais les conçoit-il tout spécifiquement pour qu'ils ne durent pas longtemps?
Il y a un cahier des charges et il y a une durée de vie moyenne qui est clairement déterminée.
Alexandre Morin pour l'informatique.
La tendance est à la baisse sur la durabilité des produits, c'est clair. On a divisé à peu près par 3 la durée de vie d'un ordinateur. Aujourd'hui, il est jeté au bout de 3 ans et demi, 4 ans, alors qu'on pouvait avoir des durées de vie au-delà de 10 ans avant. En moyenne.
Alors, on a longtemps dit, mais c'est parce que les ordinateurs sont de plus en plus performants, de plus en plus puissants.
Alors, mauvaise nouvelle pour tous ceux qui disent ça. En fait, c'est lié à une loi qui s'appelle la loi de Moore, mais qui n'est plus d'actualité. Donc, la loi de Moore dit la puissance des appareils électroniques double tous les 18 mois. Cette loi de Moore est officiellement révolue depuis un an. L'écosystème du numérique a reconnu que les appareils n'étaient pas de plus en plus puissants tous les 18 mois.
On progresse plus.
Exactement, on stagne. Et pourtant, la durée de vie continue de chuter. Donc, il y a quand même une réalité de durabilité, enfin qui va à la tendance de ce que disait Laetitia, plutôt niveler vers le bas et pas vers le durable. Et se cacher derrière ces performances n'est plus possible.
Quels sont les produits les plus concernés globalement aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment ce dont vous occupez, Alexandre Morin, c'est-à-dire l'informatique, les ordinateurs, les smartphones, où il y a plein d'autres produits?
Je pense que, enfin, en tout cas dans mon métier, c'est sûr et certain que le plus touché, c'est les smartphones. On est sur 18 mois, donc on est vraiment...
18 mois, c'est la durée moyenne?
Oui, tout à fait.
C'est la durée d'usage d'un produit ou c'est la durée d'existence?
Alors c'est la durée d'usage, donc c'est la durée moyenne à partir de laquelle la personne va le renouveler.
Mais elle va le renouveler pourquoi? Parce qu'elle a envie de changer ou parce qu'elle dit « Oh, il rame, ça marche pas bien ».
Il y a beaucoup d'obsolescence esthétique, c'est sûr, dans les smartphones, parce qu'ils sont plus fins, etc. Ils sont plus grands, plus fins, plus beaux.
Donc j'ai envie d'en acheter un plus beau.
Exactement. Chez Apple, c'est typiquement le cas, c'est sur les iPhones, où en fait il y a un taux de renouvellement toutes les deux générations. Donc les gens attendent en moyenne juste une génération pour passer à la suivante. Après, on a aussi le problème. Donc ça, c'est sur des téléphones haut de gamme, sur des smartphones haut de gamme, sur des smartphones plus entrée de gamme, aux alentours de 100-150 euros. On a cette obsolescence-là parce qu'ils ne fonctionnent plus. Ils rament énormément. Ils sont quasiment inutilisables. Ils s'éteignent prématurément.
Enfin. Donc les smartphones. Et puis ensuite, donc ça, les plus touchés par l'obsolescence. Et quoi d'autre?
Alors après, les ordinateurs portables sont très touchés, même si les durées de vie sont plus importantes. Ils sont très touchés parce qu'il y a une course à la finesse, à la performance à tout prix, qui nie à la durabilité parce que quand on veut de la performance, techniquement en fait ça chauffe, par exemple, où il y a besoin de plus d'alimentation, et la chauffe, l'alimentation... sont des problématiques énormes en informatique et les fabricants n'ont pas l'air de vouloir faire d'énormes efforts là-dessus.
Pour refroidir les ordinateurs.
Efficacement, pour enlever la poussière, etc. Alors que c'est nécessaire si on veut les faire plus fins.
Ouais. Laetitia Vasseur, en dehors du monde informatique et numérique, quels sont les produits les plus touchés?
Oui, souvent on parle des produits électriques et électroniques en priorité parce qu'il y a une obsolescence liée à la technique, mais également aussi parce qu'il y a des conséquences écologiques très graves. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres produits qui sont concernés, par exemple tout ce qui est électroménager, ça fait partie des équipements électriques et électroniques. Mais il y a aussi, vous le disiez un petit peu, les voitures, on peut parler des collants, on peut parler du textile en général et même des semences agricoles. Donc on peut élargir le sujet à beaucoup de produits.
Vous nous appelez les voisins, les voisines, si vous vous sentez concerné par cette obsolescence, tous ces produits que vous avez achetés, que vous devez tout de même renouveler rudement souvent, ça fait quand même des trous dans la bourse, hein, c'est le cas de le dire. Et puis aussi, évidemment, on voit bien les déchetteries quand même à l'œil nu qui s'amoncellent.
À guerre, les concierges étaient en vogue. Désormais, on les a remplacés par des digicodes. Dans ma ville, il n'y avait pas de parc-mètre. Je voyais des ouvriers manger des sandwichs à l'omelette. Le passé me revient comme un bill. Ok, la présence d'un passé omniprésent n'est pas passée. Les halles supplantées par le coste. L'allégorie des Madeleines file à la vitesse de Proust. L'air y était pur, Paris plus beau. Désormais, le ticket de métro augmente comme le nombre d'auto. Oh shit, à la télé, y'a plus de speaking. Y'a des films de série B que j'estime à 15 centimes. Les têtes nous plaquent, ces films de 3 pièces 7. Que je mate, mais mon intellect constate qu'ils sont obsolètes. Obsolète, mais stylée la phrase qui suivra. L'homme qui capte le mic et dont le nom possède double à la variété statique solaire, l'arbalète. Qui pique cette zig solide à l'élite. Qui élabore depuis des décennies une main basse sur mon art pour qu'il avance au ralenti. Mais le grand Manitou, t'inquiète, il démasque la musique à masque et la place en hypothèque. Puis inscrit en italique sur son agenda le top des trucs qu'il n'aime pas. Bref, pour être clair et net, le ventre et que s'accompagne de l'oreillette. Comme à mes oreilles, la variette, sa coquine et rime avec obsolète.
MC Solar obsolète chez 7 milliards de voisins, nous parlons de tous ces objets à durée de vie rudement limitée. Vous nous le disiez, Alexandre Morin, la durée de vie est-il divisée par 3 pour les ordinateurs ces dernières années? Globalement sur l'informatique, Laetitia Vasseur, vous parlez d'une durée de vie divisée par 2 ces 20 dernières années, ce qui est quand même assez inquiétant, alors que la technologie en réalité ne progresse plus depuis 2 ans, hein, c'est ce que vous nous disiez plus ou moins, Alexandre Morin, donc aucune justification. Nous sommes en ligne avec Anne-Sophie Novel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et économiste et spécialiste du développement durable. Est-ce que vous diriez que les consommateurs aujourd'hui sont en majorité conscients qu'il y a un vrai problème avec ce qu'ils achètent ou pas vraiment?
Ah oui, je pense que la prise de conscience a largement progressé. Il y a eu des documentaires diffusés à la télé sur ces questions et qui ont fait grand bruit. Donc c'est quelque chose qui a cheminé dans l'esprit des consommateurs, dans les consciences, et c'est en parallèle aussi de notre prise de conscience aussi sur la question du gaspillage, qu'il soit alimentaire ou non alimentaire. Si bien que voilà, maintenant on sait qu'il y a un problème, que quand on achète quelque chose, ça va pas forcément durer. On a tendance à encore faire confiance aux marques, et tout en se disant que des fois on peut avoir. Donc c'est assez paradoxal, mais Ça, certaines enquêtes, notamment par l'Observatoire Société et Consommation, montrent qu'on a progressé sur la question.
Mmh. Est-ce que le pire ennemi de l'obsolescence, finalement, enfin, ce qui fait qu'on continue d'acheter des produits avec une durée de vie très, très limitée, c'est le prix, les prix qui n'en finissent pas de baisser tout de même?
Comme disait Laetitia, l'obsolescence, elle a plusieurs causes et on a notre part de responsabilité. Donc, est-ce qu'on a le goût de vivre moins cher? Je ne suis pas sûre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, le budget pour l'alimentation s'est largement réduit, même si maintenant il stagne. Et on a fait augmenter la somme d'argent mise dans les produits électroniques. Mais on ne peut pas tout garder au même niveau. Donc, on continue à consommer énormément de produits. On n'achète pas cher parce qu'on a envie de consommer plus. Et puis, il y a la mode. Et puis il y a des applications qui évoluent, donc Alexandre Morel expliquait bien aussi comment on peut lutter contre ça, mais on a une part de responsabilité. Après, il faut prendre de nouvelles habitudes, et plus cette conscience se développe, plus aussi les marques, on peut les pousser à agir différemment.
Alexandre Morel, alors justement, vous, est-ce que votre vie, votre façon d'acheter est radicalement différente? Vous êtes ingénieur informaticien, vous êtes un bidouilleur né, puisque dans votre start-up, vous doublez la durée de vie des objets informatiques. Quand on vient vous voir pour ça, est-ce que du coup, vous, votre attitude vis-à-vis de la consommation de ces objets est radicalement différente?
Tout à fait, ça a complètement changé parce que le calcul est vite fait. Hein. On prend pour garder l'exemple des ordinateurs, on prend un ordinateur fixe par exemple, que nous on peut garantir 10 ans, contre un ordinateur qui garantit 3 ans. S'il est même il est deux fois plus cher, l'investissement est largement rentable sur les 10 années d'utilisation d'un ordinateur fixe qui en plus peut être amélioré dans le temps, qui en plus est très facilement réparable.
Oui, mais il y a des consommateurs qui disent « moi j'ai besoin de me trimballer avec mon ordinateur, mon portable ».
Exactement. Alors sur les oui, je prenais l'exemple de l'ordinateur fixe parce qu'il est très, très symptomatique et les gens le délaissent, alors que je pense qu'il y a encore un intérêt réel et même économique. Sur l'ordinateur portable, pour répondre à votre question, il a aussi changé parce que nous avons déjà fait le choix en interne de proposer que des ordinateurs à partir de 690 €. C'est notre prix entrée de gamme parce que si on achète quelque chose à 300-400 €, forcément ce ne sera pas performant dedans. C'est logique, la chaîne de valeur fait que ce sera des produits qui ont 3, 4, 5 ans.
690 €, ça reste quand même des prix assez abordables.
Mais il faut savoir que la concurrence en entrée de gamme mais aux alentours de 300 €, et même d'autres distributeurs, on a vu des ordinateurs à 150 €. Donc voilà, juste pour
Donc là,
pour
vous dites que c'est une folie.
C'est une folie, enfin c'est une folie même économique, parce que c'est forcément des ordinateurs qu'on va acheter au bout de 2-3 ans parce qu'ils seront obsolètes ou inutilisables.
Et le consommateur est perdant sur plusieurs années à force de racheter.
J'en suis persuadé. Ouais.
Vous êtes d'accord avec ça, Laetitia Vasseur?
Oui, c'est un calcul économique qu'on a un peu oublié, mais aussi parce qu'il faut trouver des alternatives durables, c'est ça aussi le problème. Mais c'est vrai qu'à un moment, il faudrait réussir à faire le calcul, de se dire, si j'achète un produit pas cher et qui dure très peu de temps, et que j'en rachète un du coup dans 2 ans, au final, je suis perdant. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver des alternatives, de savoir où acheter des produits durables pour pouvoir faire ce calcul en disant « Ok, j'achète un peu plus cher, mais il va me durer vraiment plus longtemps.
Ouais, » Et ça, effectivement, de ce côté-là, pour le coup, le consommateur est encore perdu. Il ne sait pas comment faire autrement. On va en parler. Quelles sont les solutions? Laetitia Vasseur, Alexandre Morin, Anne-Sophie Novel. Vous restez avec nous, les voisins, les voisines. Bien sûr, vous nous appelez, surtout si vous êtes en rage en ce moment parce qu'un de vos objets familiers est tombé en panne. 7 milliards de voisins, on revient dans un peu plus de 3 minutes sur RFI. Restez avec nous, on parle de l'obsolescence de ces objets qui nous entourent. 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins, dans un monde du tout jetable. Je crois que tout le monde s'en rend compte. Tout se gâte bien vite pour racheter encore plus vite. On en discute avec vous, Alexandre Morin, fondateur de MKR, une start-up qui remet à neuf des ordinateurs et double leur durée de vie. Je pense que les voisins, si vous avez besoin de quelques tuyaux sur l'informatique et pour la réparation et pour bidouiller les objets que vous achetez et qui sont programmés pour, en général, durer peu de temps, vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Laetitia Vasseur, vous publiez ce guide très très pratique qui s'appelle du jetable au durable. Et nous sommes également en ligne avec Anne-Sophie Novelle, journaliste, économiste, spécialiste du développement durable. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, on est dans une logique d'acheter toujours plus vite. C'est la logique de la croissance, une logique, alors elle, en béton, indestructible. Diaby nous poste ce message de Bamako au Mali. Chaque produit a une durée de vie limitée, c'est sûr, mais sans renouvellement perpétuel, les entreprises productrices fermeraient leurs boutiques, ce qui est dangereux en termes de stabilisation et de durabilité des emplois. Qu'est-ce que vous répondez au message de Diaby, Anne-Sophie Novelle, journaliste économiste ?
Eh bien, c'est une question qu'on aborde dans l'ouvrage, bien entendu. En fait, l'enjeu est d'inventer de nouveaux modèles. C'est-à-dire qu'on a basé sur notre économie sur un fonctionnement linéaire et on peut aujourd'hui aller vers des modèles plus circulaires. Ce qui fait que plutôt que de concevoir des produits qui prennent des ressources qu'on utilise et qu'on jette par la suite, eh ben, on peut envisager du départ une éco-conception, un recyclage, mais surtout des usages différenciés. C'est permis aujourd'hui par le développement de l'économie collaborative, par la mise en commun de certains moyens, mais aussi par la manière dont on peut, quand un produit est cassé ou quand on a fini de l'utiliser, lui donner une seconde vie ou anticiper dès le départ son utilisation autre par d'autres.
Oui, mais globalement, est-ce qu'il y a des fabricants aujourd'hui qui ont intérêt à fabriquer des produits qui durent plus longtemps, Laetitia Vasseur ?
Je pense que oui, il y a beaucoup d'entreprises, et ça augmente de jour en jour, comme MKR, comme d'autres, qui voient un intérêt clairement à la réparabilité, la durabilité des produits. Et je pense que c'est vraiment un changement de paradigme qui est très important, et qui, en effet, comme disait Anne-Sophie Novelle, c'est d'aller vers la réparation, le recyclage, le réemploi aussi, qui est porteur d'emploi. Et ça, en fait, plus on va créer des produits qui seront réparables, plus on va pouvoir dynamiser le secteur de la réparation et beaucoup d'emplois derrière. Et notamment en Afrique et ailleurs, le système D, les travaux de réparateurs, ce qu'on appelle le jougad, c'est-à-dire concevoir des produits avec trois fois rien, ça, c'est vraiment un talent qu'ont des gens, notamment dans les pays.
Mais qui est difficile même en Afrique, hein, ceci dit, avec quand les pièces ne sont pas réparables. Quand les objets ne sont pas réparables, même en Afrique, c'est compliqué, même avec des jeunes très talentueux, ceci dit.
Il est nécessaire dans ces cas-là de démonter les appareils entièrement, de récupérer les pièces qui sont encore fonctionnelles sur un ordinateur portable, même s'il ne démarre plus, 80% des pièces restent fonctionnelles, et des pièces qui sont assez lourdes écologiquement parlant, l'écran, la batterie, et on peut tout à fait les réemployer, c'est ce qu'on s'applique à faire d'ailleurs, à des prix réduits forcément parce qu'on n'a pas eu le coût d'acquisition de la pièce, c'est juste un coût de main-d'œuvre de récupération, mais ce travail à faire crée forcément des emplois, hein, crée forcément de l'économie, crée forcément de la valeur, et libre à l'entreprise de le faire, en tout cas nous on a fait ce pari-là.
Alors nous sommes en ligne avec un fabricant, fondateur, designer de la marque Berthe au Grand Pied, qui fabrique des chaussettes et des collants. Bonjour Régis Gautreau.
Bonjour madame.
Justement, je posais la question, est-ce que des fabricants ont intérêt à fabriquer des objets plus durables, plus résistants ? Vos chaussettes et vos collants, donc vous communiquez là-dessus, vous dites qu'ils sont de très bonne qualité. Est-ce qu'il y a, selon vous, de la part de vos concurrents, des grandes marques, une démarche délibérée des fabricants de rendre les collants, par définition, filables, jetables, au bout de 3 utilisations, on les a portés 4 jours et ils vont à la poubelle ?
Ouais, vous voulez parler du 5 euros 5 secondes, c'est ça ? Absolument.
Oui, enfin 5 euros 5 secondes, peut-être pas, mais...
c'est des formules que j'ai régulièrement. Écoutez, très certainement, en tout cas, ce qui est clair par rapport à Berthe Grandpied, c'est que ma philosophie est très simple, le pas cher coûte très cher. Et depuis l'origine de cette marque-là, j'ai voulu m'inscrire dans une belle qualité française d'abord, 100% française, ça c'est mon choix, d'accord ? Pour, voilà, parce qu'il y a une notion de savoir-faire derrière et de qualité. Aujourd'hui, si vous voulez, un fil, on va raisonner simple, le prix du kilo de fil d'un collant basique, c'est 4 euros le kilo. Mmh. D'accord ? Chez Berthe Grandpied, il oscille entre 18 euros le kilo et 120 euros le kilo. Donc déjà, c'est un choix. Vous voyez, nos collants, nous, en prix de vente, ce n'est pas 8 euros les 15, mais 30 euros la paire de collants. Mmh.
Hein. Donc vos collants coûtent 3 fois plus cher qu'un collant d'une célèbre marque qui montre des filles aux jambes sublimes. Et d'ailleurs, vous venez de nous dire que vous vous achetez le fil, non pas 3 fois plus cher, mais voire 4-5 fois plus cher, hein, si j'ai bien calculé les prix les coûts des fils que vous achetez par rapport aux autres. Mais est-ce que vos collants qui coûtent 3 fois plus cher durent 3 fois plus longtemps ?
Alors, très clairement, on fait tout pour qu'ils durent longtemps. On parle de double guipage, on parle de multibrin microfibre 3D, d'accord, etc. Donc, je ne vais pas ces détails techniques,
oui.
Mais on fait tout pour qu'ils durent plus longtemps, beaucoup plus longtemps. Alors après, nous avons des représentants, 22 en France, nous avons 1500 revendeurs, des petits commerçants sur la France et même dans le monde, et à chacun, nous leur disons la chose suivante, expliquez bien à la consommatrice qu'un collant reste un collant. Après, il faut savoir le mettre, l'enlever, le laver dans un petit filet, etc.
Prendre soin de ce qu'on achète.
Mais absolument. Ça s'appelle de la pédagogie, si vous voulez. Et ça, c'est tout Berthe Grandpied. On essaie de faire le mieux possible en France. On essaie d'expliquer comment on lave, comment on met. Voilà. Il faut savourer un produit sans se lasser.
Et vous êtes rentable ou pas ?
Absolument. Vous savez, je vais vous dire. Alors, rien n'est facile, évidemment. Aujourd'hui, Berthe Grandpied, bon, c'est une aventure qui a commencé.
Vous avez 4 usines en France et vous employez à peu près 100 personnes.
Moi, je n'ai aucune usine. Moi, j'ai une marque, c'est Berthe Grandpied, d'accord ? J'habite dans la région d'Angers. Par contre, je fais appel à 4 usines en France.
Vous faites fabriquer dans 4 usines.
Attendez, aujourd'hui, Berthe Grandpied maintient 190 personnes en production. Bientôt, une 5e usine va collaborer avec moi dans 44.
Vous exportez vos chaussettes et vos collants. Quels sont les pays les plus réceptifs à ce message, puisque vous communiquez donc délibérément sur des produits de qualité qui durent plus longtemps ? Alors, qui est réceptif à ce message ?
Mais en fait, tout le monde.
Et ce qui est absolument génial, vous le dites Chine, Japon, les Chinois ?
Ah ben absolument. Mais sachez qu'un Chinois rêve la France, respire la France, veut un bout de France, même l'Américain.
Donc il achète vos chaussettes parce que c'est du made in France, mais pas parce qu'elles durent plus longtemps.
Alors, il va acheter nos chaussettes, en effet, parce que c'est du 100% fabriqué en France et en plus, entreprise du patrimoine vivant. D'accord. Donc ça labellise. En effet, mais l'Américain va être dans la même optique, et le Japonais aussi.
Et est-ce que la tendance que vous prenez va s'accentuer, ou bien elle est vouée à rester complètement marginale ? Est-ce que vous, Berthe Grandpied, bon, une petite PME, peut influencer les grands groupes sur cette notion de « non, j'achète pas un collant pour le porter seulement 3 fois ».
Madame, mes obligations sont à l'inverse de tous ces grands groupes. Moi, je n'ai aucune pression. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, avec l'entreprise Perrin aussi, qui est située à Montceau-les-Mines, qui fabrique tous les collants en soie et en cachemire. Ça, c'est une autre entreprise fabuleuse. Bon, nous avons comme objectif de fournir 0,01% de la population mondiale. Vous voyez ? Donc, vous voyez, bon, on n'a aucune pression. Voilà,
d'accord.
Oui, donc évidemment. Et dernière chose, si je puis me permettre, je pars du principe que les niches d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain.
À méditer ça. Merci en tout cas d'avoir été en ligne avec nous. Alors, est-ce que ces marginaux d'aujourd'hui, ceux qui veulent des objets plus durables, sont la majorité de demain ? Laetitia Vasseur.
Ouais, moi, je remercie Berthe Grandpied pour son travail en faveur de la durabilité des collants. C'est vrai que nous, on a fait une enquête à HOP, Halte à l'obsolescence programmée, pour justement comprendre mieux cette obsolescence des collants. On a fait un sondage qui a clairement montré une frustration très grande des femmes concernant le peu de durabilité.
C'est très désagréable quand on s'habille le matin, que son collant est filé, qu'on n'en a pas un de rechange, c'est clair.
Ouais. Exactement, et ça coûte très cher, parce qu'à force, en termes de bourse, c'est compliqué. Mais ce que je me demandais, c'est parce qu'on a interviewé, notamment dans le livre aussi, Wolford, qui fait des collants plus durables et
marque
plus chers.
Autrichienne.
Tout à fait. Ils sont a priori conçus pour être plus durables, et donc on peut comprendre qu'ils sont aussi plus chers. Mais ce que je me demande, en fait, par rapport à ces marques-là, c'est qu'est-ce qui est garanti, parce qu'à un moment, les femmes ont tellement eu l'habitude là, récemment d'avoir des collants qui se filent trop vite, que comment est-ce qu'on peut faire confiance à une marque en se disant « Ok, j'achète 40 euros ou 30 euros mon collant, mais je suis sûre qu'il va durer ». Et quelle est la garantie, quelle est la confiance qu'on peut avoir dans ces marques ? Donc, si on peut avoir une réponse, ça m'intéresse parce que je trouve ça très intéressant. Mais il faudrait récupérer la confiance des consommateurs.
Alors, il faut dire aussi que Régis Gautreau nous disait « Il faut éduquer le consommateur à prendre soin de ses des objets à réparer également. Est-ce que ça, c'est un vrai problème aujourd'hui, du fait que les objets ne coûtent pas cher? Certes, il y a encore des continents où la nécessité économique, notamment sur le continent africain, oblige les consommateurs à faire réparer, mais ça reste compliqué. Comment on peut éduquer à faire réparer?
Eh ben, en éduquant, tout simplement. Il y a deux mots qui ont été très importants cités précédemment, c'est pédagogie et confiance. Je pense que vraiment, il y a un énorme enjeu là-dessus pour une entreprise qui veut faire du durable, et c'est notre enjeu. C'est des mots qui sont écrits dans nos bureaux, en gros, parce que c'est ce qu'on essaye d'instaurer avec nos clients tous les jours, et je crois qu'on y a réussi avec les mille premières personnes qui nous ont suivis.
Mais vous avez des révoltés, vous, qui viennent vous voir, non?
Eh ben, pas que. On a des révoltés, c'est vrai. Et on a aussi des gens très pragmatiques qui regardent nos prestations. Alors il y a des règles. Il faut pas que la prestation coûte plus d'un tiers du produit. Donc il y a vraiment des règles économiques aussi très strictes chez nous pour que on soit attractif, pas seulement écologiquement.
Oui, parce qu'en gros, vous avez quelqu'un qui a acheté un ordinateur à 600 € qui vient vous voir et qui vous dit combien ça coûterait de doubler sa durée de vie.
Pas plus de 200 €.
Donc
matériel compris.
Donc résultat des courses, 800.
800, mais...
Si on a acheté un ordinateur à 600.
Mais là, avec 200 € de plus, on a 2-3 ans de durée de vie en plus. Donc on a vraiment une vraie... et puis on peut le garantir. Donc on double réellement la durée de vie. Donc le calcul est très très vite fait. C'est économiquement viable pour les entreprises et pour les particuliers.
Qui sont dans le fond les vrais ennemis du durable, Laetitia Vasseur?
On a fait un peu un panel des responsables, entre guillemets, de l'obsolescence programmée dans notre ouvrage. Clairement, les fabricants sont quand même responsables. Hein. C'est eux qui conçoivent leurs produits, qui ont une relation aux fournisseurs, qui font un cahier des charges, qui conçoivent. Donc ça, c'est la première chose. Après, il ne faut quand même pas oublier les distributeurs. Parce que parfois, c'est les distributeurs aussi qui sont de mauvaise foi et qui ne veulent pas mettre sur leur rayon des produits qui sont faits pour durer. Parce que du coup, le vendeur va en vendre moins si...
Il y a eu des cas récemment?
Moi, je n'ai pas forcément envie de citer des marques, mais il y a des distributeurs, clairement, qui, par exemple, sur un aspirateur Dyson qui est fait pour durer 5 ans, avec une garantie 5 ans.
Qui est vendu avec la garantie 5 ans,
voilà.
Donc ça doit normalement inspirer rudement confiance aux consommateurs.
Oui, mais qui, clairement, ne plaît pas du tout à certains distributeurs qui font tout leur business sur l'extension des garanties payantes qui, au final, qui ne servent pas à grand-chose, a priori. Donc, clairement, c'est un business model qui ne leur plaît pas.
Anne-Sophie Novelle, sur les ennemis du durable?
Je suis d'accord avec ce que dit Laetitia. Après, je pense que c'est aussi tout un rapport à réinventer aux objets. On a été habitués aujourd'hui à consommer rapidement, à travailler pour consommer. Et ça, on en parle aussi dans l'ouvrage. C'est-à-dire que c'est une autre éducation à la consommation, une réappropriation de la réparation, une nouvelle façon de voir l'économie. Et tout ça, ça prend du temps. Donc nous, on espère avec Hop arriver à participer à cette éducation, mais aussi à changer doucement les paradigmes. Je pense que ça progresse bien en ce moment, mais voilà, il ne faut pas lâcher.
It's already gone.
Vous écoutez 7 milliards de voisins. Si vous en avez marre d'acheter des objets qui se cassent très vite, plus vite que ce que vous pensiez, et du coup, si vous avez l'impression de dépenser tout de même des sommes plus inconsidérées que ce que vous aviez prévu. On parle de cette obsolescence des objets aujourd'hui. Alors, bien sûr, très difficile de prouver que des fabricants ont sciemment prévu que leurs objets, que leurs produits aient une durée de vie limitée. Néanmoins, c'est un fait. Les produits durent de moins en moins longtemps. On le disait au début de cette émission. La durée de vie d'un ordinateur a été divisée par 3 ces dernières années, c'est ça ?
Sur les 30 dernières années.
Sur les 30 dernières années. Et plus globalement, tout le matériel informatique a été divisé par 2. Nous sommes en ligne avec Simplice qui est à Dakar. Bonjour Simplice.
Oui, bonjour Emmanuel. Bonjour aux invités.
Alors vous êtes un consommateur énervé ou pas du tout ?
Pas du tout. J'ai une approche tout à fait différente.
Oui.
Je viendrai presque à excuser les fabricants parce que je trouve que le mode de consommation actuel correspond à notre époque. Il faut savoir que moi j'ai 61 ans. Il faut savoir donc qu'à notre époque, on va dire, à mon époque, à l'époque, les machines de fabrication, les outils de fabrication fabriquaient beaucoup moins qu'aujourd'hui. Mmh. Une usine qui sortait, on va dire, 1000 téléphones jour ou heure ou mois, comme on veut. Aujourd'hui, c'est peut-être 1 million par jour. Mmh. Alors, il faut bien qu'on les écoule. Si on s'amuse à garder un portable pendant 10 ans, ben, l'usine est ferme. Et en plus, les salaires sont plus les mêmes. Mmh. Et quand vous prenez dans le domaine de l'automobile, par exemple, je me dis, l'acier qu'il faut pour fabriquer une 403 Peugeot, ben, cet acier-là, il peut fabriquer aujourd'hui 3-4 voitures. Mmh. Alors, est-ce qu'on continue à exploiter les ressources de la terre ou bien qu'est-ce qu'on fait ? Bon, voilà. Il y a tout cela.
Mais vous-même, vous avez
parlé de l'ordinateur.
Là, vous nous donnez un argument macroéconomique, mais en tant que consommateur, je ne sais pas, vous avez dit au standard, vous avez combien de téléphones chez vous ? Vous avez dit au standard ?
Oui, je dois en avoir 4 ou 5, 6 à peu près.
Attendez, vous avez 5, 6 téléphones qui fonctionnent, que vous avez avec vous tout le temps ?
Non, pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire qu'il arrive des moments, il arrive à une certaine période, vous savez, les applications, les nouvelles applications, elles sont trop lourdes, elles ne peuvent plus fonctionner sur les anciens téléphones. Vous prenez n'importe quelle marque de téléphone de 2000
Donc vous en rachetez un et vous conservez l'autre qui n'est pas réellement cassé, mais qui rame, qui est trop lent.
Mais il ne peut pas marcher parce que l'application qu'il faut ou les applications dont j'ai besoin aujourd'hui, qui correspondent à notre époque d'aujourd'hui, il ne peut pas fonctionner sur... Et ces téléphones-là, il en est de même pour les ordinateurs. Mmh. Vous prenez un ordinateur de 2000, vous ne pouvez pas installer Windows 10 depuis dessus, ce n'est pas possible. Il ne fonctionnera pas.
Ah.
C'est trop lourd.
Oui, alors là, peut-être la parole à notre ingénieur informatique qui est en studio.
Pour reprendre l'informatique, la courbe des besoins augmente très très peu. Donc la courbe des besoins d'un utilisateur lambda n'a pas spécialement augmenté, quelques dizaines de pourcents en 5 ans. Donc il y a déjà ce premier phénomène qui n'est pas une course encore à ce besoin, ce dont je parlais avec la loi de Moore, et ça revient avec ça, donc on ne peut plus trop se cacher derrière ça, même plus du tout. La deuxième chose, c'est que si on regarde deux systèmes d'exploitation sur Windows, Windows 7, Windows 10, ils ont exactement le même besoin en performance, en termes de puissance de calcul qui est demandé par ces processeurs. Windows 7, alors je vais peut-être dire, alors ça doit être aux alentours de 7 ans, il doit être aux alentours de 7 ans, Windows 10 ça fait un an et demi maintenant qu'il est sur le marché. Donc en fait, on peut très bien faire tourner Windows 10 sur des ordinateurs qui ont 7-8 ans d'ancienneté, et c'est ce qu'on fait. Et on a répondu à la problématique de l'obsolescence programmée logicielle en faisant ça. Et pour 60 euros, c'est fait.
Pour 60 euros.
Eh oui.
Laetitia Vasseur.
Je pense qu'il y a quand même aussi un problème social à l'obsolescence programmée, non seulement environnemental, on l'a souvent dit, mais social. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de se racheter tous les 2 ans une machine à laver, un téléphone ou un ordinateur portable. Et peut-être qu'il y a des gens qui ont les moyens de le faire très bien, mais il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Donc l'obsolescence programmée, c'est aussi un problème social. Et c'est pour ça que j'invite tout le monde à se fédérer chez Hop pour influencer les industriels et leur montrer qu'il y a des solutions aussi économiques. L'obsolescence, c'est un problème économique, monsieur vient de dire, c'est vrai que c'est un vrai enjeu, mais il y a des solutions, et notamment l'économie de la fonctionnalité. Enfin, on peut changer de paradigme.
Néanmoins, le consommateur, multiconsommateur comme Simplice, serait la réponse au progrès de la productivité industrielle. Hein. C'est bien ce que vous nous disiez, Simplice. Hein.
Oui, absolument, absolument. Et puis, il faut savoir
que vous n'êtes pas convaincu là par les explications de nos invités.
Non, pas du tout, pas du tout. Parce que tous mes téléphones, même celui de 2000, ils fonctionnent toujours, sauf qu'il n'a plus la même capacité, il n'a plus la même puissance. Et il y a la capacité de stockage également. Vous ne pouvez pas faire. Je suis désolé, mais le dit qu'un ordinateur de 2007 peut tourner avec Windows 10, je doute. Déjà, on est aujourd'hui à 500 gigas, les téléphones, les portables à l'époque, je vais dire, les ordinateurs à l'époque, c'était quoi? On parlait en mégas, aujourd'hui on parle en gigas, et bientôt en téra même d'ailleurs. Alors donc, quand vous avez des applications aussi lourdes, les faire tourner sur des machines, de vieilles machines qui résonnaient en mégas, ça dépend de ce qu'on veut faire aussi.
Voilà. C'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Je parlais donc des... Nous, notre record sur une remise à neuf, c'est 14 ans d'ancienneté. Donc 14 ans, ça nous remonte à 2003, la date d'achat de la machine. C'est pas du tout ce qu'on fait le plus, c'est des machines qui ont entre 4 et 7 ans. Donc quand les machines qui ont entre 4 et 7 ans, ont généralement des disques durs qui sont aux alentours de... qui sont entre 120 et 500 gigaoctets, donc largement suffisant pour installer un nouveau système d'exploitation, qui sont aux alentours de processeurs qui tournent, parce qu'on peut parler technique dans ces cas-là, aux alentours de 2 GHz, entre 1 et 2 GHz, ce qui est largement suffisant pour faire tourner des logiciels actuels, avec de la RAM qu'on peut monter très facilement 4 Go. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on retrouve encore dans le commerce.
C'est ça. Donc vous parvenez à augmenter la durée de vie des ordinateurs et des smartphones que l'on vous confie, mais avec augmenter la durée de vie, mais avec la même rapidité, c'est ça, d'exécution des tâches.
Souvent plus rapide. Quand on change le matériel, tout à fait, bien sûr.
Merci beaucoup, Simplice, de nous avoir appelé. Alors, je voudrais quand même qu'on parle de la loi, parce qu'il y a eu, donc, il y a des solutions aujourd'hui et des questionnements. Faut-il des lois? Faut-il durcir les lois pour punir les fabricants qui produisent des produits à durée de vie très limitée? Gandhi nous dit à Goma, pour pénaliser les entreprises, finalement, c'est aussi pénaliser ceux qui n'ont pas les moyens, puisqu'on propose toujours des produits moins chers. Il y a eu les lois Hamon et la loi ensuite de 2015 sur la transition énergétique, qui prévoit en France d'informer le consommateur sur la disponibilité des pièces détachées, et puis également de punir, c'est un délit, quand un fabricant cherche à réduire volontairement la durée de vie d'un produit. Ces lois, elles ont quelle application dans un pays comme la France et quelle efficacité, Laetitia Vasseur?
Oui, la loi, c'est aussi un vecteur important. Aujourd'hui, il y a eu trois grandes avancées en France, qui est un pays pionnier contre l'obsolescence programmée. L'accessibilité des pièces détachées pour pouvoir réparer. Enfin, la disponibilité, savoir s'il y a des pièces détachées. Ensuite, la garantie. Aujourd'hui, en France, tous les produits sont garantis 2 ans. Personne ne le sait, mais c'est une réalité. Il faut que ça soit mieux appliqué. Et ensuite, le délit d'obsolescence programmée. À l'heure actuelle, ça fait 1 an et demi, donc c'est assez récent.
Qui a été condamné pour obsolescence programmée, c'est-à-dire où on a pu prouver que délibérément, le fabricant avait réduit la durée de vie de son produit?
Il n'y a pas eu encore de cas en justice, mais ça ne saurait tarder. Ça fait quand même pas longtemps, donc il faut récupérer des données pour savoir s'il y a connaître un produit où massivement il y a eu des plaintes d'obsolescence programmée, et ensuite faire la démonstration de son irréparabilité ou son obsolescence. Donc ça, c'est un premier enjeu. Mais la loi n'a pas été inutile, dans le sens où ça a été vraiment un signal fort pour dire attention, maintenant l'obsolescence programmée, c'est un vrai sujet, et on cherche à savoir quelles sont les solutions. Et les entreprises, je pense, maintenant se méfient vraiment doivent prendre en compte la durabilité pour ne pas justement être mis sur le banc des accusés. Donc c'est un signal très fort et qui est repris en ce moment au niveau européen, parce qu'en effet, on ne peut pas agir que la France toute seule, même si on peut faire beaucoup de choses. Au niveau européen, il y a un rapport de Pascal Durand qui est en train d'être étudié, et donc des solutions potentiellement au niveau européen maintenant.
Alors, quand je vois que dans votre guide, vous avez donné des statistiques, des chiffres. La télévision à écran plat, sa durée de vie moyenne, c'est 6 ans. Le smartphone, c'est 3 ans. L'imprimante, c'est 5 ans. L'ordinateur, c'est 3 à 5 ans. Un aspirateur, c'est 7-8 ans. Un lave-linge, c'est 6-8 ans. Un réfrigérateur, c'est 10 ans. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Est-ce qu'on va inexorablement vers une durée de vie plus longue ou encore plus courte des objets qui nous entourent, Anne-Sophie Novel?
C'est une question compliquée. Comme je vous disais, il s'agit de changer les modèles. Donc, une question qu'on n'a peut-être pas assez creusée dans le livre, et on en avait parlé avec Laetitia et Samuel, c'est que finalement, il y a aussi des sociétés qui produisent des objets qui sont utilisés par un public de professionnels. Et ces objets-là savent durer longtemps. Donc, je pense, moi j'en suis convaincue.
À quoi vous pensez?
Je pense aux lavomatiques, par exemple, aux machines à laver qui sont utilisées dans un endroit ou dans les endroits où il y a beaucoup de passages.
Machines à laver industrielles, par exemple, pour l'hôtellerie, des choses comme ça.
Exactement. Je pense que quand on conçoit des produits industriels, on sait faire des objets qui vont résister à un certain nombre de cycles. Donc forcément, ça pose la question du coût, mais on sait faire ce genre de choses. Donc moi, je m'en remets aujourd'hui à ces industriels qui peuvent faire des progrès, aux jeunes designers aussi. Il y a des gens qui réfléchissent, qui ont grandi avec cette conscience de l'obsolescence programmée, mais qui disent peut-être qu'on peut faire des produits plus modulables, c'est-à-dire, je pense à l'increvable, la machine à laver là qui est en kit et qu'on peut monter comme une chaîne de magasin. Je pense à ce qu'a fait aussi Malongo avec une de ses machines à café.
Donc ouais, ça prend mais du avec temps, beaucoup ça. De difficultés et ça n'a pas
Il
été un carton pour le public, très honnêtement.
En tout cas,
ce que j'observe, c'est que je ne sais pas, Laetitia Vasseur, Alexandre Morin, vous êtes des trentenaires. Est-ce que la nouvelle génération, ça va changer ou pas, Alexandre Morin? Vous avez le mot de la fin, il vous reste quelques secondes.
Oui, je pense que ça va changer parce qu'il y a plein d'initiatives citoyennes et M Carré en fait clairement partie. Hein. Quand on peut proposer une remise à neuf à partir de 60 euros, je pense qu'on est une vraie volonté économique, écologique, sociale.
Bon, on va mettre votre site internet sur notre page. Merci à vous tous, Laetitia Vasseur, fondatrice déléguée générale de l'association Halte à l'obsolescence programmée, le guide du jetable au durable. Merci à vous aussi, Anne-Sophie Novel, Alexandre Morin, M Carré, une start-up donc, qui remet à neuf des ordinateurs et double leur durée de vie. Merci à vous, les voisins, pour vos témoignages. Merci à toute l'équipe. Demain, 7 milliards de voisins. Rediffusion de notre émission sur le couple. Vous l'aimiez et puis c'est devenu la routine. Un sociologue, et non un psy, a enquêté sur la déception des femmes dans leur couple. Pour lui, pas de doute, il s'agit aujourd'hui d'un vrai phénomène de société. On en parle demain.